Et bonjour, bienvenue dans l'Étoile Polaire, l'émission d'astronomie amateur sur RDIWA 107.5, 101.7 dans le pays de Luc. Eh bien, on est content de vous retrouver. Ici, c'est l'équipe de l'Astro Club du DIWA dans le studio ce dimanche matin pour venir vous parler d'astronomie. Il y a Fred, Axel et Rémi.
Et bonjour.
Salut tout le monde.
Alors, on envoie une petite salutation à Péric. Et alors, on est bien content de vous retrouver pour ce 57e épisode. Vous savez qu'il y a le podcast de l'émission, on vous en parle régulièrement sur le site de RDIWA. Actuellement, le site est en changement.
En réflexion.
En réflexion, en chantier. Enfin, bon, il y a un nouveau site qui est en train d'être installé. Donc, vous n'avez plus accès aux archives de l'Étoile Polaire. Les anciens épisodes vont être temporairement un peu... hors d'accès, mais ça reviendra d'ici un mois ou deux, un mois normalement, avec un tout nouveau site. Voilà, c'est pour vous prévenir, si vous nous cherchez, soyez pas étonnés, c'est normal. On vous rappelle le mail de l'émission sur lequel vous pouvez nous contacter, astro-rdwa@protonmail.com. Et si vous voulez venir dans l'émission, c'est possible, dans le cadre de notre rubrique Nouvel Œil. Si vous avez envie de discuter du ciel, si vous avez une pratique de l'astronomie, quelle qu'elle soit, et que vous avez envie d'en discuter avec nous, vous êtes les bienvenus. Alors, on va commencer avec le sommaire de l'émission. On démarrera avec quelques actualités du monde de l'astronomie et avec la rubrique Le ciel ce soir, comme d'habitude, pour voir un peu les constellations que vous pouvez observer en ce moment. Ensuite, ce sera Rémi, notre envoyé spécial. Hein, c'est un peu ta spécialité. Tu vas à l'autre bout de la planète et tu nous racontes un peu comment on observe le ciel là-bas.
Ouais, surtout quand il fait froid dans le DIWA.
Ouais. Donc là, toi, tu reviens...
Moi, je reviens des Philippines. Du coup, c'est pas encore l'hémisphère sud, mais c'est un peu plus bas...
Ouais, tropical.
Un peu plus à l'est, ouais.
Ok, donc tu vas nous raconter un peu ça. Ensuite, Axel, tu vas faire la deuxième partie de ta thématique sur les superstitions dans le spatial.
Oui, tout à fait. Cette fois, on va parler des Russes, de Roscosmos, et puis aussi du nombre 13 que j'ai pas abordé la dernière fois, mm-hmm. un peu chez tout le monde. Ce fameux nombre 13 qui fait trembler.
Qui fait trembler les empires, ok. Et on terminera l'émission, je parlerai des quasars dans le cadre un peu de cette série de trois émissions qui s'achève ici sur le bestiaire cosmologique et les objets un peu étranges du cosmos. Voilà pour cette petite introduction. Et on va commencer avec les actus. Alors... dans les actualités, je voudrais quand même vous annoncer une petite conjonction. Bon, c'est peut-être dans le ciel ce soir, mais ce n'est pas grave. Une petite conjonction entre la Lune et les Pléiades le 16 mars. Donc là, c'est dans le calendrier des enregistrements. Si vous écoutez l'émission pour sa première diffusion, on est avant le 16 mars. Donc vous avez encore une chance d'être au courant et de pouvoir sortir le soir pour observer. Donc les Pléiades ont... On en a déjà parlé à moult reprises. Ouais. C'est ce petit amas d'étoiles qui ressemble à une mini grande ours et qui se trouve dans le taureau. Voilà. Bon, en tout cas, sachez que, de toute façon, on ne pourrait pas le rater. Il y aura la Lune, donc ce soir-là, et un croissant de Lune, et les Pléiades à côté. Ça va être assez joli. Donc là, c'est de l'observation visuelle, mais enfin visuelle à l'œil nu, sans télescope. Hein.
Ou jumelle.
Mais au télescope, après, ouais. Ça dépend un peu de l'éloignement. Je ne sais pas si on peut les avoir dans le même champ ou pas. Aux jumelles, ça va être en tout cas très bien. Ouais, ça, c'est sûr. Peut-être le mieux adapté, même. Enfin, voilà. Il y avait aussi un petit anniversaire que je voulais mentionner, puisque le 13 février 1974, donc ça fait exactement 50 ans, ça a été la première détection de notre centre galactique, Sagittarius A. Et donc de cet immense trou noir supermassif qui se trouve au centre de notre galaxie. Donc a été détecté il y a exactement 50 ans par deux astronomes américains qui s'appellent Bruce Balick et Robert Brown. Voilà. Donc c'est à eux qu'on doit cette découverte. Hein. Donc dans le Sagittaire, c'est entre le Sagittaire et le Scorpion, le centre de la galaxie. C'est toujours une petite émotion de regarder dans cette direction-là, parce qu'on ne sait pas trop. On sait que c'est vers le centre.
Ouais. Ça, il faut attendre l'été pour revoir le Sagittaire.
C'est en ce moment, pas on en voit ce pas, moment, non.
Le Sagittaire qu'on donne parfois sous la forme d'une théière. Et là, le Sagittaire, Sagittarius à étoile, est au bout du bec verseur de la théière.
Tout à fait. Alors, juste pour donner un chiffre, ce trou noir supermassif, il aurait une masse de 4 millions de masses solaires.
Ah oui.
Donc voilà, on en avait un petit peu parlé. Bon, j'en reparlerai de toute façon plus tard dans l'émission, parce que c'est un peu mathématique avec les quasars. Donc voilà, en tout cas, mentionner l'anniversaire de cette découverte. On avait aussi un petit truc sur Mars, là, sur Perseverance.
Ah oui, la mission Perseverance et son petit hélicoptère dont on a déjà parlé dans l'émission. Donc une mission d'exploration de Mars envoyée par la NASA en 2021, je crois. Et il y avait une sorte de drone, en fait, un petit hélicoptère avec deux hélices. Et il a peut-être mal atterri, on ne sait pas trop. En tout cas, il y a une des hélices qui était bréchée et a priori, il ne pourra plus voler. Mais il a fait ses preuves, puisqu'à la base, l'idée d'envoyer ça, c'était surtout de voir si c'était possible, parce que sur Mars, il y a une petite atmosphère, beaucoup plus ténue que sur la Terre. Donc, est-ce qu'on arriverait à concevoir quelque chose qui vole dans une atmosphère différente, tout ça. Voilà, c'était vraiment un test.
Vous voulez tester la technologie.
Technique. Et en fait, ça marchait si bien qu'ils ont pu s'en servir beaucoup plus que ce qu'ils pensaient et faire des vrais relevés avec. Et donc, voilà.
Puis partir en reconnaissance aussi pour.
Oui, c'est ça, de faire des déplacements beaucoup plus loin.
Beaucoup plus loin que toutes les petits rovers qui sont obligés d'être au sol et qui avancent plus péniblement et sont vraiment beaucoup plus soumis aux accidents du terrain. Oui. Ça rejoint un peu dans la dernière émission, on avait parlé de ces petites sondes envoyées par les Japonais, avec une qui sautait comme une espèce de petite grenouille,
et l'autre qui roule.
Et l'autre qui roulait sur deux demi-sphères. Donc on va vers des modes de propulsion différents et ils sont en train clairement de l'explorer. Alors voilà, bon, ce petit robot-là, ce petit avion, lui, il a terminé son travail, mais il y en aura clairement d'autres. Parce que je crois qu'ils ont été assez contents des résultats.
Ouais, ouais.
Et puis, on va terminer avec Voyager 1, qui apparemment ne donne plus signe de vie.
Oui, ça fait maintenant quelques temps, mais il y a des moments où c'était déjà arrivé. Pendant quelques semaines, ils ont du mal à faire le lien, la connexion. Et puis, donc voilà, c'est pour ça aussi que j'en avais pas parlé jusqu'à aujourd'hui. Mais là, ça commence à durer, ce problème. Ça fait plus d'un mois, peut-être bientôt deux mois, qu'ils n'arrivent plus à capter un signal de Voyager, ou je crois à lui envoyer un signal et à ce qu'elle réponde. Enfin, on sait à peu près encore où elle est, cette sonde, mais elle est dans une position qui fait que son antenne n'est pas pointée vers la Terre et on n'arrive pas à lui dire de repointer vers la Terre. Et donc, c'est peut-être la fin de Voyager 1, qui est une des sondes historiques.
Oui, on peut rappeler un peu Voyager 1, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est une sonde qui a été lancée à la fin des années 70.
Début 70.
Et qui avait pour vocation d'observer les planètes du système solaire et qui a été la première à le faire.
Explorer plein sur
ce trajet. Possible, voilà, passer. Et donc, c'est à elle qu'on doit les premières photos de la plupart des planètes externes du système solaire, après la ceinture d'astéroïdes.
Je crois qu'encore aujourd'hui, la photo de Neptune la plus détaillée qu'on ait, c'est toujours celle de Voyager.
Oui.
Uranus aussi.
Uranus et Neptune. Et donc ensuite, elle est partie dans la ceinture de Kuiper. Et là, elle est un peu au bout de cette ceinture. Hein, elle commence à être assez loin, à sortir vraiment du système solaire. Alors pas non plus encore complètement de la sphère d'influence du Soleil qui est de l'ordre de l'année-lumière. Donc on est quand même un peu loin. Mais c'est sûr que dès qu'on est derrière la ceinture de Kuiper, là, ça commence à être vraiment très loin.
Sa fin était un peu programmée et presque attendue parce qu'au bout d'un moment, elle est si loin du Soleil que ses panneaux solaires ne récoltent plus de puissance, plus d'énergie. Elle a aussi une pile nucléaire, mais qui, comme toutes les piles, a une durée de vie limitée. Donc voilà, on savait que dans quelques années, de toute façon, ça serait fini, mais visiblement, ça se finit un poil plus tôt que prévu. Et en même temps, beaucoup plus tard que prévu aussi, parce que comme tu disais, c'était juste exploration des planètes à la base. Et puis après, on s'est dit, mais en fait, si elle continue tout droit, elle va pouvoir nous envoyer plein d'infos sur des contrées
de
l'espace qu'on n'a jamais atteint. Quoi. Ouais.
Mais avec, il me semble que Voyager, le processeur, il y a 32K de mémoire. le programme embarqué, c'est 32 kilooctets. Ouais. C'est de la blague.
Ah bah oui, c'est ridicule par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui.
Mais de voir ce qu'ils ont réussi à faire avec ces 32K, c'est quand même assez incroyable. Bon. Ok.
Voilà.
Alors, je vais terminer ces actus avec la mention du fait que là, en mi-février, ça va être un bon moment pour observer la lumière cendrée. Voilà, par rapport à la phase de la Lune et puis à sa position. Lumière cendrée, c'est quand en fait vous avez un croissant de Lune, mais que vous voyez quand même le reste du disque lunaire dans le ciel, qui en fait est éclairé par la Terre, en éclairage secondaire. La Terre renvoie de la Lune, la partie qui est éclairée par le Soleil de la Terre renvoie de la lumière. Et ça, en fait, la Lune, dans cette position-là, dans laquelle elle est actuellement, enfin mi-février, elle va bien le capter et ça va éclairer son disque. Voilà. Okay. On va passer à la suite. Et là, c'est toi, Rémi, qui va nous faire rêver avec un petit peu de soleil, de chaleur et d'autres contrées.
Et oui, c'est, moi, j'ai pu observer là-bas pas mal d'étoiles de mer, mais quand même un peu des étoiles dans le ciel, oui. Non, moi, je reviens des Philippines, j'ai eu l'occasion d'aller là-bas et de lever les yeux au ciel. Et c'est vrai que c'est une situation qui est assez intéressante. C'est situé entre le tropique du Cancer et l'Équateur, sur des latitudes entre 8 et 12 degrés nord, quoi. À peu près, c'est assez étendu. Et longitude 125 en moyenne, quoi. Donc, c'est, par exemple, on voit assez bien les étoiles qu'on connaît dans l'hémisphère nord. Elles sont juste un petit peu déplacées. Enfin, disons qu'on les voit à un autre endroit.
Plus haute.
Ouais, on a Orion qui est quasiment au zénith.
Oui.
Ça, c'est impressionnant. On voit quand même l'étoile polaire qui est à peu près à 10 degrés au-dessus de l'horizon.
Oui.
On devine le pôle sud céleste sous l'horizon, quoi. Et on a accès à beaucoup de constellations qui sont sous l'équateur céleste, quoi. Donc on a toutes les étoiles brillantes de l'hémisphère sud. On aperçoit le nuage de Magellan. Là, cette saison, ça opérait à peu près au coucher du soleil. Donc le soleil se couche vers 18h, se lève vers 6h le matin. C'est assez constant, quoi, dans ces régions équatoriales. Ça change pas trop dans l'année. Il n'y a pas vraiment de changement de saison comme chez nous.
Oui, c'est ça, de changement de durée du jour et de la nuit.
Ouais.
Il fait jour et nuit à 6 heures tout le temps, plus ou moins. Et puis après, c'est saison sèche ou saison humide.
Voilà, et les températures restent très constantes entre le jour et la nuit aussi. Non, c'est assez intriguant aussi quand on regarde la trajectoire des astres, notamment au coucher du soleil. On peut avoir la Lune qui apparaît au sud et puis dans la nuit qui passe vers le nord. C'est-à-dire que c'est un phénomène dû à l'inclinaison de la Terre. Cette position fait que le cercle elliptique passe à un moment du sud vers le nord. Et je dois vous dire que c'est assez troublant quand même.
Oui.
Donc c'est à l'équateur, c'est encore plus poussé comme phénomène, quoi. Mais c'est assez remarquable et du coup ça m'a amené un petit peu à parler de la Lune, comment est-ce qu'on voit les quartiers de Lune là-bas. Parce qu'on se pose souvent la question, sur certaines images on voit la Lune qui sourit.
La Lune couchée.
Ouais, Une couchée ou en gondole, y a plein de terminologies. Et en fait plus on se rapproche de l'équateur, plus l'effet se fait ressentir. Et c'est simplement que quand on lève la tête vers le ciel, eh bien on voit la Lune. L'axe nord-sud de la Lune nous paraît horizontal, quoi, étant donné que nous, on est sur la...
Sur le côté de la Terre,
sur
un peu,
côté,
on pourrait dire.
Abou, ouais. 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 Bah, c'est quand même bien une preuve que la Terre n'est pas plate, hein. Ça dit en passant.
S'il en fallait encore une.
Ouais. Non, donc voilà, c'est vrai que c'est assez dépaysant, mais moi j'avais jamais eu l'occasion d'être si proche de l'équateur et encore de l'hémisphère nord, donc c'est assez sympa, parce que ça permet de quand même voir tous les objets qu'on connaît ici à nos latitudes et puis quand même de pouvoir observer une partie du ciel d'hémisphère sud. Ça donne envie d'y aller dans une autre saison encore pour voir...
Une autre partie du...
Ouais.
Du ciel du sud.
Est-ce ouais. que tu as eu accès à des instruments d'optique là-bas?
Eh bien non, j'ai pas pu parce que entre la pleine lune qui était quand même présente au moment où j'y étais et bon, il y a deux observatoires aux Philippines, il y en a un qui est relié à l'université de Manille, la capitale, et puis il y a un autre observatoire, disons un observatoire amateur, mais qui est quand même lié avec l'observatoire national, qui fait des relevés, qui font beaucoup de planétologie, tout ça. Et on était en contact, ils ont des instruments, ils ont un 400 mm Newton sur une monture équatoriale, ils ont des lunettes solaires, ils ont quelques instruments, et c'est ouvert au public en visite. Voilà, j'aurais pas pu y aller, parce que c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de nuages dans ces zones tropicales.
Ah oui.
Beaucoup d'humidité qui monte et qui comble le ciel. Quoi. Mais il y a quand même eu des belles nuits, rien qu'à l'œil nu, il y a de quoi se régaler.
Ben merci Rémi.
Avec plaisir.
Alors je me rends compte que je t'ai passé la main, mais j'ai oublié le ciel ce soir. Justement, alors on va enchaîner comme ça.
Après, oui, ça donne envie.
Voilà, le ciel des Philippines. Nous aussi, on a eu quand même pas mal de nuages, même si on en a un peu moins que là en janvier. C'est quand même pas un foufou en ce moment pour observer. Ceci dit, on y arrive quand même parfois. Et alors, qu'est-ce qu'on voit? Moi, je dirais que quand même, ce que vous voyez de plus clair, c'est un point orangé très brillant qui est assez haut dans le ciel. C'est Jupiter. Et là, pour le coup, c'est vraiment l'astre le plus qui apparaît en premier en ce moment et qui est vraiment bien placé pour l'observation en début de soirée.
Sud-ouest.
Ouais. Ouais, c'est ça. Sud-sud-ouest, ouais.
Sud-ouest, ouais.
Et donc, on a toujours, au niveau des constellations, on a toujours ce signe-là qui est en train de disparaître de plus en plus, mais qui est toujours encore présent au moment du coucher du soleil, et qui nous amène sur le carré de Pégase. Et puis, ensuite, le bélier, le lion. Donc là, Jupiter est dans le bélier. Le bélier, c'est une petite constellation, il y a trois étoiles. Ça fait comme une petite virgule là dans le ciel. Mmh. Et ça marque c'est la première constellation du cycle du zodiaque après les poissons qui sont sous Pégase. Et puis donc ensuite arrivent les taureaux, les gémeaux, on a aussi le cocher. Mmh. Voilà un peu les constellations. Et puis Orion, hein. Orion qui se lève et qui petit à petit va vraiment régner sur le ciel dans le courant de la nuit. Quoi.
Tout à fait.
Tout à fait.
Et ouais, avec cette fameuse nébuleuse d'Orion, un des rares objets qu'on voit dans le ciel qui n'est pas une étoile.
Ouais.
Avec la galaxie d'Andromède qui est bien visible aussi en ce moment, qui est aux zéniths. Mais ouais, cette nébuleuse d'Orion, à l'œil nu déjà, on voit que sous la ceinture d'Orion, on a ces trois étoiles alignées. Et on voit qu'il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait une étoile.
On voit qu'il y a une tache.
Ouais, il y a une petite tache.
Une nébulosité.
Ouais. Mmh.
Tout à fait. Donc ça, pointer des jumelles dessus. Hein.
C'est cette nébuleuse d'ailleurs qui image le podcast numéro 56.
De l'émission précédente, ouais, 56, tout à fait. L'image prise par Rémi. Mm-hmm. Très belle image d'un très bel objet.
Mm-hmm. Voilà. Et puis pour ce podcast, pour cette émission qu'on est en train d'enregistrer, eh bien, ce sera probablement la tête de cheval qui est aussi dans Orion, l'image que j'ai réalisée le week-end dernier.
C'est un détail en fait.
C'est un petit détail, ensuite ça on ne le voit pas du tout à l'œil nu, et même pas en visuel avec un télescope, mais ça c'est sur l'étoile de gauche de la ceinture, Alnitak, la première étoile. Là.
Oui, c'est pas dans la nébuleuse d'Orion, c'est dans la constellation
d'Orion. Oui, voilà, pardon.
C'est dans la ceinture.
Dans la constellation, dans la ceinture.
Ok. Eh bien, vous pourrez regarder ça sur le podcast. Là, l'autre jour, je me suis levé bientôt et c'était assez rigolo parce que, juste avant que le soleil se lève, on a vraiment le ciel d'été en ce moment. On est complètement sur le ciel d'été avec Hercule, voilà, Arcturus, le bouvier, Hercule, la couronne, toute la petite clique. Et ça, c'est vrai que c'est rigolo. Alors justement, là, dans cette semaine, dans cette rubrique, je voulais faire un petit focus sur les constellations circumpolaires. On rappelle, c'est les constellations qui sont visibles toute l'année. Donc on voit bien, si on visualise la sphère, si on visualise la sphère céleste et comment elle tourne en apparence autour de l'étoile polaire, on rappelle avec l'axe de rotation de la Terre en fait, qui pointe vers elle. On imagine en fait la Terre autour du Soleil à un moment de l'année. Donc nous, on observe quand il fait nuit, c'est-à-dire quand on tourne le dos au Soleil et on voit une certaine partie des étoiles. On observe dans une certaine direction et on imagine bien que 6 mois plus tard, on est exactement dans la position opposée sur notre orbite. Et donc, quand il fait nuit, on observe exactement l'autre moitié du ciel. En fait, on observe dans l'autre direction que 6 mois plus tôt. Donc là, en ce moment, on est début février. Donc, si on rajoute 6 mois, ça nous amène début août. Donc, on est en plein milieu d'été. Donc là, actuellement, en fait, on est vraiment dans la situation inverse par rapport au ciel qu'on voit habituellement en été. C'est vrai qu'en fait, il n'y a pas de saison pour observer le ciel, mais souvent, il y a beaucoup de gens qui ont plus tendance à l'observer en été parce qu'il fait plus chaud, parce qu'on est plus dehors, parce que parfois on est en vacances aussi, etc. Donc, c'est des moments qui sont peut-être plus propices à l'observation du ciel. En tout cas, propices pour les gens, quoi. Pour l'observation elle-même, moi, je pense que j'adore le ciel d'hiver. Je trouve qu'il est presque même encore plus beau que le ciel d'été. Mais ce n'est pas vraiment le sujet. Alors... tout ça pour dire que les constellations circumpolaires, c'est celles qu'on voit toute l'année. Hein, parce que je dis, si on alterne de 6 mois en 6 mois, eh bien, en fait, l'axe, il est légèrement tourné. Enfin, vous voyez, l'axe de la polaire, il n'est pas exactement perpendiculaire. Il ne pointe pas vers le zénith. Hein, c'est incliné. Donc, en fait, vous avez une partie du ciel qui est visible 6 mois, l'autre partie est visible les 6 autres mois. Et donc, vous avez des constellations qui sont visibles tout le temps. C'est celles qui ne sont pas trop loin de cette étoile polaire et qui viennent raser, en fait... au niveau de l'horizon. Merci. Et donc, il y a surtout la grande ours Cassiopée qui tourne autour de l'étoile polaire qui elle-même est dans la petite ours. Entre les deux, on a le dragon et on a Céphée. Ça, c'est quand même un peu la Céphée, c'est une sorte de petite maison au toit un peu tordu qui est assez brillante quand même. Et voilà, ça, on le voit toute l'année. Et là, en ce moment, on le voit à l'envers de par rapport à l'été. Et donc, par exemple, on se retrouve avec l'impression bizarre d'avoir la casserole à l'envers ou de la voir en forme de point d'interrogation. Voilà. Donc, si ça vous amuse, des fois même, les gens n'arrivent pas à la retrouver, la grande ours, parce qu'elle n'est pas dans le sens où elle est d'habitude avec sa tête de casserole. Elle est dans un autre sens et ça trouble la vision. Donc c'est un moment rigolo pour faire cette observation qui est assez simple sur une constellation quand même de base que plein de gens connaissent, qui est la Grande Ourse. Allez, amusez-vous à l'observer en ce moment et vous verrez que ça, c'est un peu différent de d'habitude. Voilà pour ce ciel ce soir. On peut peut-être parler un peu des planètes rapidement. Le matin, il y a Vénus qui se... Mars, tu l'as vu ?
Mars, je l'ai vu, mais quand il y a un horizon dégagé, avant le lever.
Saturne qui se couche très tôt avec un horizon dégagé, on peut peut-être encore la voir en début de soirée, pas évident. Donc on a en fait surtout Jupiter, dont on a déjà parlé, qui est bien placé pour l'observation. Chose à rajouter sur ce tour du ciel
Non, c'était très bien. Je crois que c'était très exhaustif.
Eh bien, Axel, alors c'est à toi pour les superstitions.
Ah oui, alors je reprends. Dans l'émission précédente, j'avais parlé des superstitions qui se pratiquent et des traditions, des rituels qui se pratiquent à la NASA, à l'ESA, l'agence européenne, chez les Indiens de l'ISRO, chez les Japonais de la JAXA. Et donc, qu'est-ce qui reste vous allez me dire, parce que vous êtes taquin, le Canada, mais je n'ai rien trouvé sur les superstitions du Canada. Donc, il reste les Russes de Roscosmos. Juste avant de parler des Russes, je vais faire un petit topo sur le nombre 13 qu'on retrouve un peu chez tout le monde, là, pour le coup. Par exemple, à l'ESA, on n'a pas trop de mal avec le 13. Il y a quand même eu le premier lancement d'une fusée Vega qui a été planifié pour le 13 février 2012. Et donc, le directeur de vol à Kourou, il s'est dit, je vais quand même vérifier. Il a pris le calendrier en mode très méthodique. Il a fait toutes les archives des lancements en voyant s'il y avait des lancements le 13 ou pas et si ça avait marché ou pas. Il n'a pas vu de corrélation. A priori, il n'y a jamais eu de problème le 13. Par contre, il a vu qu'il y avait d'autres périodes où régulièrement il y avait des problèmes. Il n'a pas dit lesquelles, mais donc, il y a quand même des périodes qu'il se dit qu'on aurait peut-être évité. Mais rien à voir avec le 13. Chez les Indiens, donc à l'ISRO, on est passé directement de la mission PSLV 12 à la 14.
Tout simplement.
Sauf que c'était le 13, dans le doute, on ne prend pas de risque. Chez les Russes de Roscosmos, pas de soucis avec le 13. On a eu la mission Soyuz MS-13, elle s'est très bien passée. Voilà, ils ont pas eu de doute à la faire. Au Luxembourg qui n'a pas vraiment d'agence spatiale, mais qui a envoyé des satellites, parce qu'ils ont quand même une petite constellation de satellites. Parce que ça marche comme ça, il n'y a pas que les agences spatiales qui envoient leurs satellites. N'importe qui a le portefeuille peut dire « je vous achète une fusée, envoyez-moi ce satellite, puis après t'en fais ce que tu veux ». Et donc le Luxembourg, ils ont choisi de ne pas faire dans leur constellation SES, j'ai oublié ce que ça voulait dire, il n'y a pas de SES-13. Ils se sont dit, dans le doute, si on n'arrive pas à le vendre après, le faire fonctionner, tant pis, il n'y aura pas de SES-13. Par contre, ils ont réfléchi à placer le SES-8, c'est satellite géostationnaire, donc ça doit être pour de la télécommunication, au-dessus de l'Asie, parce que le 8 en Asie, ça porte chance. Et donc, ils ont mis le SES-8 au-dessus de l'Asie. Et l'Asie a l'air d'en être très satisfaite. Et puis pour finir, la NASA, il y a la fameuse mission Apollo 13 qui a été lancée un 13 avril à 13h13 et qui n'a pas marché, et qu'ils n'ont pas réussi à aller jusqu'à la Lune. Non, c'est vrai, ils n'ont pas réussi à aller jusqu'à la Lune avec ça. Ils ont réussi quand même à sauver les trois astronautes qui étaient dedans, à les rapatrier sur Terre. Mais après ça, ils se sont dit, le 13, on arrête. Et du coup, pour les navettes spatiales qui sont venues un peu plus tard, au début, c'était les STS, Space Shuttle, STS 1, 2, 3, 4, 5. Et puis ils se sont dit, attends, on arrive au 13, là, on va peut-être éviter. Et du coup, à partir de la 10, ils ont complètement changé de numérotation, ils ont pris l'année. Donc on est passé de STS 9 à STS 13,65, ou quelque chose comme ça. Enfin, pas 13 d'ailleurs. Mais voilà. Mais, c'était 165-02. Enfin, bon. Donc voilà, pas de STS 13. Par contre, ils se sont fait une petite nique quand même à la malédiction, puisqu'ils l'écusson de cette mission qui aurait dû s'appeler STS-13, ils ont mis un chat noir dessus.
Ah voilà. Voilà.
Pour quand même pas perdre la face. Alors voilà pour ce chiffre 13, ce nombre 13. Maintenant, parlons donc de Roscosmos et de tout ce qui se pratique pour se porter chance et ne pas s'attirer le mauvais œil quand on part depuis Baïkonour. Au Kazakhstan, la base de lancement russe des Soyouz. Alors, évidemment, il y a énormément de ces traditions qui tournent autour de Gagarine, de Yuri Gagarine, le premier homme dans l'espace. On s'est dit, comme c'est le premier et que ça a marché, tout ce qu'il a fait, on va le refaire. Donc, je ne vais pas le répéter à chaque fois, mais il y a beaucoup de choses, vous comprendrez, où c'est juste par copie de ce que Gagarine a fait. Et encore, aujourd'hui, on dit que... On n'est même pas sûr, il n'y a pas de preuves, c'est pas du tout scientifique. Il n'y a pas de documents qui disent « oui, il a fait ça », il n'y a pas de vidéo ou quoi. Mais s'il l'a fait, dans le doute, on va le faire. Alors, autour de Gagarine, ça commence quand, avant d'aller à Baïkonour, à Moscou, il y a un monument en son honneur, et, pas que de Gagarine d'ailleurs, mais des pionniers de l'espace, avec il y a Laïka, tout ça, toute une grande fresque dans un bas-relief. Et donc là, il est d'usage d'aller là-bas et de déposer des fleurs, des œillets rouges, je n'ai pas trouvé la signification, mais bon, voilà, des œillets rouges sur ce mémorial. Ensuite, on visite son bureau qui n'a pas été touché, qui est devenu un musée depuis sa mort pendant un vol de test, Gagarine. Depuis ça, voilà, on va dans son bureau, on signe son livre d'or, et il y a même un côté un peu spirituel où on considère qu'il est encore là et donc on lui demande la permission de voler. Il a été presque déifié.
Le saint patron des cosmonautes. Ouais.
Donc on lui demande la permission de voler. Il n'a jamais refusé, a priori. Mmh. À chaque fois, il dit oui. ensuite, on nous emmène à la cité de l'espace russe. Et là, l'équipage va planter un arbre pour chaque équipier derrière l'hôtel de l'espace, où il séjourne avant le lancement, sur les rives de la rivière, de la Daria. Ils vont tous planter un arbre, ce qui doit être assez marrant de voir. En fait, tu as une petite plaque et du coup, tu as l'arbre planté par Gagarine. Alors, je ne sais pas si lui, il l'a fait, mais en tout cas, c'est une vieille tradition. Donc, tu as des arbres qui sont bien gros. Et puis celui de Thomas Pesquet qui doit être encore un petit arbre. Enfin, voilà, tu dois voir toute l'évolution comme ça. Un petit hommage, souvenir à tout le monde, en se promenant autour, au bord de la Daria. L'équipage n'a pas le droit de voir la fusée tant que ce n'est pas le jour du lancement et qu'ils sont prêts à monter dedans. Et pendant qu'elle est déplacée jusqu'au pas de tir, ils vont chez le coiffeur. Toujours dans l'hôtel de l'espace, hein. Il y a un coiffeur qui est là, ils doivent se refaire une coupe, évidemment parce que Gagarine l'a fait, donc voilà. Au lieu de voir la fusée, on se refait une coupe. Alors pour les astronautes qui sont chauves, je ne sais pas en quoi ça consiste, peut-être une petite crème. Je pense à Scott Kelly par exemple. Cette fusée qui est amenée jusqu'au pas de tir, elle est amenée sur une sorte de train, il y a des rails, ça va tout doucement, là, c'est 2 km/h, quelque chose comme ça. Et là, les techniciens, les ingénieurs posent des pièces, des petits roubles, j'ai peur de me tromper à chaque fois, je crois que c'est la monnaie là-bas. Mmh. Ils posent des petites pièces, des centimes, qui vont se faire écraser et plier par le poids du train et de la fusée dessus. Et on ne sait pas trop ce qu'ils en font derrière, mais j'imagine que ça va être un petit trophée. Quoi. Voilà, j'ai la preuve que j'étais là quand on a transporté tel Soyouz. Bon. La veille du départ, les cosmonautes sont dans l'hôtel et là, ils doivent regarder un film qui s'appelle Le soleil blanc du désert, en russe Bilai Sonce Patsinye. Et c'est obligatoire. C'est un film qui est sorti en 69. Alors du coup, on ne sait pas si Gagarine l'a vu, mais bon, on s'est obligé de regarder ce film. Voilà. C'est un des plus gros succès du cinéma soviétique, dans le style Ostern, que je ne connaissais pas. C'est les westerns qui parlent de l'ouest. Là, c'est les Ostern qui parlent de l'est.
Comment il s'appelle le film ?
Le soleil blanc du désert. Claudie Aignoret dit l'avoir vu 6 fois, mais que même au bout de la 6e fois, elle ne s'est pas dit qu'elle n'allait pas le voir juste par respect. Quoi. Bon, je le connais le film, mais je vais rester devant par respect pour tout ça. Ouais, le film Le soleil blanc du désert. Vient le jour du départ. On se réveille, on a un petit déjeuner au champagne chez les Russes. Est-ce que c'est un champagne français ? Je ne sais pas. Mais petit déj au champagne. Et puis on quitte sa chambre après avoir fait une minute de silence. Et en fermant la porte, on signe sa porte. Il y a encore tout ce délire de signature, de laisser une marque comme on avait chez les Américains. Ensuite, on a un prêtre orthodoxe qui vient bénir l'équipage avec de l'eau bénite. Alors ça, c'est assez récent parce qu'à l'époque des soviétiques, c'était pas orthodoxe. Ça date de... Est-ce que j'ai la date ? Non, je crois que c'est dans les années 80. C'était Alexandre Viktorenko qui a voulu être béni avant de partir. Et puis, voilà enfin le moment de quitter l'hôtel. Et là, et ça, je trouve ça épique. Je ne sais pas s'il y a un film où on nous montre ça, mais c'est trop bien. Les cosmonautes sortent de l'hôtel. Il y a tout plein de gens devant qui les attendent, des officiels, du public, les techniciens, machin. Et il y a des haut-parleurs qui diffusent de la musique. Et c'est la musique qu'on va écouter maintenant pour faire la petite pause. Et puis je finirai cette chronique après la pause. Une musique du groupe Zemlyanie, qui veut dire les terriens. Et la chanson s'appelle l'herbe verte de la maison, en gros. Et c'est un petit peu rock progressif et tout. Je trouve ça trop classe que voilà, on écoute du rock en sortant là-bas. Voilà. Zemlyanie, Grass Near Home, Trava Udoma. Et puis on se retrouve sur Radio Diwa juste après pour la suite de cette chronique. Ça a bugué. Ils veulent pas chanter. On est censuré. Attendez, je vais le retrouver vite. Voilà, ils sont là. Imaginez-vous, des années d'entraînement. Vous avez signé votre porte, vous sortez, vous avez ça dans le haut-parleur.
Света и земные видим сны. И снится нам не рог от космодрома, не эта ледяная синева, а снится нам трава, трава у дома, зеленая, зеленая трава. Путями неизбитыми, прошит метеоритами простор. Оправдан риск и мужество, космическая музыка вплывает головой наш разговор. Какой-то дымки матовой земля в иллюминаторе, вечерняя ранняя заря. А сын грустит о матери, а сын грустит о матери, ждет сына мать, а сыновей земля. И снится нам не рок от космодрома, не эта ледяная синева, а снится нам трава, трава у дома, зеленая, зеленая трава.
Polaire, l'émission d'astronomie sur Radio Diwa. C'était donc le groupe Zemlianie, que les cosmonautes sont obligés d'écouter quand ils sortent de l'hôtel avant de partir de Baïkonour. Ça vous a plu?
Magnifique.
C'est rock'n'roll, hein, la Russie, quand même.
On imagine la foule en délire acclame les cosmonautes, le petit morceau de rock'n'roll. Classe.
Eh bien, je vais continuer. Alors, qu'est-ce qui se passe une fois qu'ils ont écouté ça? Ça y est, ils partent de leur hôtel. Ils montent dans un petit bus qui va les amener jusqu'à leur fusée, parce qu'il y a quelques kilomètres quand même. Une vingtaine de kilomètres, je crois, entre l'hôtel et le pas de tir. Un petit bus qui est orné de multiples fers à cheval. Toujours le même symbole. Le fer à cheval qui apporte chance. Et là, il y a un des rituels les plus étranges, mais peut-être un des plus connus aussi, vous connaissez sans doute, sur ce trajet, dans ce petit bus, à un moment, il s'arrête et les cosmonautes doivent descendre et faire pipi sur une des roues du bus, comme l'a fait Gagarine, évidemment. Et alors, vous allez me dire... Alors, en plus, des fois, je vois que c'est la roue arrière droite, des fois, c'est la roue arrière gauche, donc tu vois la fiabilité de l'information. Mais bon, en tout cas, c'est le rituel. Voilà, on sort faire pipi sur la roue du bus. Et vous allez me dire, mais comment font les cosmonautes, eux, femmes? eh ben, elles sont dispensées, mais il y en a certaines quand même qui tiennent à honorer la tradition et donc qui prévoient une petite fiole de leur pipi pour aller asperger la roue du bus.
Ok.
Voilà, ensuite, ils arrivent enfin au pied de leur fusée. Il y a un marquage au sol, un petit peu comme les rubans de scotch sur les scènes pour dire « toi t'es là, toi t'es là ». Et donc ils se mettent dans la même position que ce qu'ils seront dans leur vaisseau, dans le Soyouz. Et là, il y a un officiel qui vient, un directeur de je sais pas quoi, qui vient discuter un peu et qui au bout d'un moment dit « ils sont prêts ». Et là, c'est bon, ils peuvent partir, ils commencent à monter. Ils commencent à monter, ils s'installent dans leur vaisseau. Ils ont dans leur vaisseau une petite peluche, un petit jouet qui est suspendu au plafond, qu'on appelle Boris traditionnellement, qui est devant la caméra, en tout cas depuis qu'il y a des caméras dans les vaisseaux. Et ça permet aux équipes au sol de voir le moment où ils sont bien en micro-pesanteur, en micro-gravité, parce que le jouet n'est plus suspendu. Enfin, ne plus tirer en bas du film, il flotte un petit peu. Et donc là, voilà, on sait, tout le monde sait qu'on arrive en 0G. Qu'est-ce qui nous reste ? On est presque au bout. Une petite tradition qui nous vient des marins, tradition maritime. Quand le vaisseau arrive à destination, s'il y a docking, par exemple s'ils arrivent à la station spatiale, juste au moment de se docker, quand il est en approche, il y a une cloche qui retentit dans l'ISS et dans le vaisseau, comme se faisaient les bateaux. Tu vois un bateau au loin, tu sonnes une petite cloche. Et puis là, il y a une heure ou deux de pas de décompression, mais de pressurisation, tout ça. La porte s'ouvre, on voit ses collègues qui sont là, puisqu'il y a toujours quelqu'un dans l'ISS. Hein, depuis 1995, l'homme est présent dans l'espace. Et là, on offre du pain et du sel aux gens qui arrivent, aux arrivants. C'est une tradition slave, signe de d'accueil, quoi, d'hospitalité. Voilà. La mission se passe bien, en tout cas, on fait tout pour. Et puis vient le moment de rentrer. On part, on se dédoque, on rentre avec un autre vaisseau avec lequel on est venu, je crois, parce que ça tourne. Et puis arrivé au sol, si tout s'est bien passé, on est extrait du vaisseau et là il est de coutume une fois de plus de signer le vaisseau qui est carbonisé par le plasma, par la rentrée atmosphérique, avec une craie blanche on signe son Soyouz. Et puis après, bah, évidemment, il y a plein de cérémonies officielles que je ne vais pas détailler, mais qui sont encore très structurées, systématisées, avec des discours, tout ça, puis encore des fleurs pour Gagarine et voilà un petit peu tout ce qui se passe chez les Russes dans la chronologie d'un lancement de Jean à Baïkonour. J'ai deux petits rituels en bonus qui sont plus génériques, qui ne rentrent pas dans cette chronologie. C'est qu'il n'y a jamais de lancement le 24 octobre chez les Russes. On ne fait jamais de lancement le 24 octobre. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu deux échecs, un en 1960 et l'autre en 1963, deux échecs, il y en a un qui a fait quelques morts d'ailleurs, et du coup depuis voilà, deux fois le 24 octobre, on ne dit plus jamais le 24 octobre, donc voilà, ils n'ont pas de problème avec le 13, mais avec le 24 octobre oui. Il y a aussi alors ça c'est pas à Baïkonour, c'est un autre site de lancement, c'est en Sibérie que les Russes exploitent, là où ils lancent pas des gens mais ils lancent des satellites. Et il y a eu un gros problème une fois. Ah non, c'est qu'il y a un ingénieur qui a signé dans le givre le nom de sa femme, Tania, dans le givre du fuselage de la fusée. Depuis, on le fait. Et une fois, on ne l'a pas fait, en 1980, la fusée a explosé avant le lancement, ça a fait 50 morts. Donc voilà, oui. Tout le monde se fait taper sur le doigt. Mais pourquoi vous n'avez pas signé Tania sur le givre du fuselage ? Et puis la petite dernière, pour finir, ça je la trouve marrante, c'est que peu importe quand, on n'utilise jamais le mot dernier. Quand on parle d'astronautique en Russie, on va préférer le mot final, par exemple. On ne va pas dire c'est le dernier vol de l'année, on va dire c'est le vol final de 2024. Parce que dernier, bon, c'est qu'il n'y a rien derrière, quoi. Voilà un petit peu tout ce qu'il faut respecter si vous voulez partir dans l'espace chez les Russes.
Et ben, entre tout ce que tu nous as raconté la dernière fois et cette fois-ci, là, entre les Américains, ouais, les Russes et tous les autres, ça fait un paquet quand même de petits cérémoniels.
Oui, oui. Je t'avais dit, chez les Russes, c'est plus velu encore que chez les Américains.
Ok, mais merci Axel pour toutes ces pratiques un peu étranges.
Je vais finir par une question. Est-ce que vous avez des petits rituels dans vos soirées d'observation, vos soirées d'astronomie? Un petit truc, un slip pour bonheur. Je regarde pas le ciel si j'ai pas mon... Non, rien.
Pas plus que ça.
Pas spécialement. J'oriente toujours la monture vers le nord.
Ouais. Ah ouais.
c'est bien. Ça, c'est le côté pratique. Moi, c'est l'occasion de lui faire une petite bise, si jamais il nous écoute, à notre ami Jean-Bernard. Quand je monte mon Dobson, parce que j'ai un télescope qui est démontable, qui est en kit, quoi, quand je le transporte, et au moment où je l'assemble, je peux me tromper des fois dans le sens de la cage du secondaire, le côté où on regarde, en fait, à droite ou à gauche. Il y a un sens où c'est bon parce que le chercheur se retrouve au-dessus. Et puis si je me trompe, le chercheur se retrouve en dessous du télescope. Beaucoup moins pratique. Et à chaque fois que je le monte, du coup, je pense à Jean-Bernard. Je revois Jean-Bernard à Valdrome qui utilise mon télescope. Et je le visualise. Et du coup, je sais de quel côté il était de mon télescope.
Okay.
Et donc, je sais où mettre le porte-oculaire. Voilà, une bise à JB.
Qui pourra peut-être devenir lui aussi une icône.
Ouais, ça refaire tout ce qu'il faisait.
Ok.
Voilà.
Eh bien, on va terminer cette émission avec la rubrique Abrac et en parlant des quasars. Donc, c'est une petite thématique qui va conclure le sort de bestiaire cosmologique là que j'avais commencé dans l'épisode 55. Et donc, qui avait un peu pour but de recenser les objets un peu étranges du cosmos. Donc, ça nous avait amené à discuter pas mal d'évolution stellaire, puisque, beaucoup de choses qu'on observe sont en fait des résidus d'étoiles. Donc, on l'a dit, avec les étoiles de type Soleil qui vont donner des géantes rouges, puis des naines blanches. Ensuite, on a parlé pour les étoiles plus massives des étoiles à neutrons, qui était la même chose que les pulsars. Et puis on avait dit ensuite que pour les étoiles encore plus massives, on allait jusqu'au trou noir. Donc il y avait eu, je voudrais juste préciser un petit truc par rapport à ces limites, en fait, à partir de quelle masse on obtient un trou noir, à partir de quelle masse, etc. Parce qu'il y a une petite ambiguïté. J'avais parlé la dernière fois d'un calcul qu'avait fait Oppenheimer, justement, où il disait que pour une étoile de plus de 3,3 masses solaires, en fait, on allait avoir formation d'un trou noir. En fait, ça, c'est 3,3 masses solaires, cette masse critique, c'est la masse, en fait, du résidu, de ce qui reste après l'explosion de l'étoile. Donc, pour avoir effectivement une supernova, il faut arriver à partir de 8 ou 10, on va dire une dizaine de masses solaires pour que ce genre de phénomène commence à arriver. Voilà, donc c'était pour lever un peu cette ambiguïté, c'est que des fois on parle de la masse en fait de ce qui reste, et si on parle de la masse de l'étoile de départ, eh ben forcément c'est pas la même chose. Voilà, donc tout ce qui concerne trou noir, etc., et même étoile à neutrons, c'est à partir de 8-10 masses solaires. Là on a des supernovas et on a ce type de phénomène. Voilà. Donc maintenant, je vais, pour terminer tout ça, parler des quasars. Alors, les quasars, ils sont liés, en fait, à cette autre catégorie de trous noirs dont on avait parlé, qui n'était pas liée à l'évolution stellaire, mais qui étaient les trous noirs supermassifs qui sont au cœur des galaxies. Et en fait, un quasar... Alors, quasar, ça signifie quasi-stellar. C'est presque une étoile. Parce qu'en fait, ça apparaît dans les télescopes comme une étoile, une espèce de source quasi sphérique. Donc c'est pas complètement sphérique, mais ça y ressemble. Et en fait, alors ça a été découvert dans les années 60. Au départ, on savait pas ce que c'était. On savait surtout pas à quelle distance elles étaient, ces objets. Par contre, c'était très lumineux. Et en fait, assez vite, on s'est rendu compte que ces objets qui étaient en fait étaient très petits. Et ils sont très petits, très petits dans le ciel. Ils ont une distance angulaire, une taille angulaire très faible. Et en fait, on a réalisé que c'était des objets qui étaient quand même assez étendus, mais qui en réalité étaient très loin. En réalité, ces quasars, ce sont les objets les plus lumineux de l'univers. C'est-à-dire qu'ils sont en moyenne un quasar est 2000 milliards de fois plus brillant que le Soleil. Ça, c'est
2000 milliards.
Oui, le Soleil de jour, en plus.
Le Soleil de jour. Donc, c'est quand même, en fait, énorme. Et en réalité, en fait, les astronomes, au départ, ne savaient pas trop ce que c'était. Ils ont fini, en fait, par faire des spectres de ces objets. Et là encore, ça les a plongés un peu dans la confusion. Un des premiers, j'ai oublié son nom, mais ils ont assez vite formulé l'hypothèse, en fait, que ces spectres-là n'étaient pas des rayons connus, mais étaient des rayons d'hydrogène à fort, fort redshift, vraiment beaucoup décalés par effet Doppler.
Donc très loin.
Donc très loin, voilà, c'est ça. Alors, ça n'a pas été accepté, voilà. Donc, bon, il y a eu des tâtonnements. Finalement, ils se sont rendus compte qu'ils avaient affaire effectivement aux régions centrales, en fait, de galaxies très massives et lointaines. Donc, les quasars, on en a repéré plus de 100 000. Et il y en a, en fait, leur distance, le plus proche, il est un peu moins d'un milliard d'années-lumière de nous. Okay. Et le plus lointain qu'on a pu observer, c'est 13 milliards. Ouais. Donc, quasiment au début du Big Bang, en fait, quoi. Donc, ouais. on est quand même sur des objets qui sont relativement lointains. Et qui donc, comme je disais, voilà, représente cette zone d'accrétion, c'est-à-dire de gaz, qui tourne autour du trou noir supermassif et qui, en fait, est en train d'être aspiré par ce trou noir. Et c'est ça qui dégage, en fait, cette quantité d'énergie phénoménale. Parce qu'en fait, il y a un phénomène de physique qui est une observation, c'est que n'importe quelle charge électrique, enfin une charge qui tourne sur elle-même, est accélérée, subit une accélération et donc rayonne.
C'est bien brillé.
Ouais, perd de l'énergie en rayonnant. Ouais. Parce qu'elle est accélérée. Bah, c'est le principe des accélérateurs de particules et des choses comme ça. Donc en fait, on voit ces immenses quantités de gaz qui sont des résidus, en fait, des formations de la galaxie, qui tournent autour de ces grands, de ces énormes trous noirs et qui sont avalés, en fait. Et en étant avalés, elles libèrent énormément d'énergie jusqu'à obtenir, donc, ce que je disais là, des 2000 milliards de fois plus qu'une étoile, quoi. Sur des zones assez restreintes, puisqu'il ne s'agit que du cœur de la galaxie. Donc voilà à quoi ça ressemble. Alors il y a aussi du coup de la matière et du rayonnement surtout qui est éjecté perpendiculairement au plan du disque de la galaxie. Donc comme deux rayons, en fait, qui partent de part et d'autre. Donc qu'on arrive aussi à détecter. Et puis les quasars ont la particularité aussi d'avoir une luminosité qui varie. Ces objets qui sont fluctuants, quoi. Voilà. Alors après là, on peut se dire oui, c'est pas juste une étoile qui rayonne, c'est du gaz qui s'effondre, donc il peut y en avoir plus ou moins, on sait pas trop. En tout cas, c'est on n'a pas de grands modèles, hein, sur les structures internes des quasars, mais voilà en tout cas ce qu'on observe. Alors, il y a quand même ce petit point là de dire que ces quasars, ils sont loin, hein, parce qu'il n'y en a pas un seul à moins de 1 milliard d'années-lumière de nous. Oui. Et on rappelle qu'en astronomie, en fait, observer loin, ça revient à observer dans le passé. Parce que la vitesse de la lumière étant ce qu'elle est, elle est très rapide, mais elle est quand même finie. Donc, pour parcourir une distance de 1 milliard d'années-lumière, eh bien, il faut 1 milliard d'années à la lumière. Donc, quand je regarde l'objet, je le vois tel qu'il était il y a 1 milliard d'années. Donc, ça veut dire que si je n'observe ces objets que dans des régions éloignées de moi, ça veut dire que je ne peux les voir que dans le passé. Donc, ça veut dire qu'on a affaire à des galaxies qui, a priori, sont plutôt des structures jeunes. De galaxies hypermassives qui sont plutôt du début de l'univers et du début de l'histoire de l'évolution galactique. Sinon, ça voudrait dire qu'on en observerait à côté de nous,
des
plus près, donc des plus jeunes.
Et vu la brillance, il ferait jamais nuit. vu la luminosité
aussi. Ouais. Donc voilà un peu pour ça. Et ça, du coup, bah, je trouve que ça nous amène à dire un petit mot d'évolution galactique rapidement. Déjà, je rappelle quand même, une galaxie, c'est un amas d'étoiles, hein, on va dire 100 milliards d'étoiles, et que quand même, toutes les étoiles qu'on observe, nous, dans la nuit, sont des étoiles de notre galaxie qui s'appelle la Voie lactée. Je viens toujours rappeler un peu ça parce que ça donne aussi une idée des échelles. Ouais. Quand là, on passe à l'échelle galactique, c'est-à-dire entre ces amas d'étoiles. Donc, on part sur des distances qui sont plutôt de l'ordre du million d'années-lumière, autour du million d'années-lumière, quoi, entre deux galaxies. Donc, ça commence à faire des sacrées distances. Et donc là, on aurait ces galaxies jeunes qui sont plutôt massives. Mais ensuite, les galaxies, elles évoluent. Les galaxies, en fait, elles vont... Il y a des collisions entre galaxies qui sont vraiment importantes dans la façon dont les galaxies évoluent. En particulier, je mentionne que nous, on est dans une collision annoncée avec la galaxie d'Andromède. D'ailleurs, il y a j'ai vu une vue d'artiste, là, d'un dessin en fait, qu'avait fait un artiste en imaginant à quoi ressemblerait le ciel dans 2 milliards d'années.
Ah, oui, oui.
Et en fait, on voit la galaxie Andromède qui prend la moitié du ciel.
Ah, oui, j'ai déjà vu ça.
C'est impressionnant. Ouais, ouais. Ça donne envie de voir ça. Ouais. Parce que là, l'impression d'être dans un film de science-fiction toutes les nuits. Quoi. C'est waouh. Ouais. Wow. En tout cas, c'est réel. Nos deux galaxies vont... En tout cas, vont rentrer en collision. Alors, c'est des collisions de choses qui sont pleines de vide. Hein. Ça n'a rien à voir avec la collision d'une voiture contre un mur. Oui. Mais vous pouvez avoir des parties de galaxies qui se mélangent. Vous pouvez avoir des galaxies qui émergent, qui fusionnent. Vous pouvez aussi avoir des galaxies où il y en a une qui va être traversée par l'autre. Il y a plein de cas de figure. Évidemment, tout ça, ça prend des centaines de millions d'années.
Oui, c'est pour ça que je préfère toujours le mot plutôt rencontre ou mariage que collision.
Ouais, c'est peut-être plus adapté, ouais.
Interaction.
Je crois que dans les simulations qui valent ce qu'elles valent, mais quand même, dans les simulations, les astrophysiciens pensent qu'il n'y a pas une étoile qui va en rencontrer une autre. Quand
c'est bien
la Voie lactée,
ouais,
va rencontrer Andromède.
C'est ouais. Ça. Les distances entre les étoiles sont telles que c'est que du vide, tout
ouais,
ça.
Voilà.
Donc, par contre, ce qui est clair, c'est qu'il y a des interactions gravitationnelles qui sont super fortes.
Ouais.
Et que, en fait, très clairement, les galaxies, elles sont traversées par des chocs gravitationnels, en fait.
Mmh.
Et il y a quand même cette idée que, quand on parle d'évolution stellaire, hein, on rappelle à chaque fois, c'est des nuages de gaz qui commencent à s'effondrer sur eux-mêmes. Mais qu'est-ce qui pousse un nuage de gaz à s'effondrer sur lui-même? Pour le coup, ce qu'on observe, c'est que dans les systèmes où les galaxies se rencontrent, on a énormément de zones de formation d'étoiles.
Et oui, ça par contre, les nuages de gaz, les nébuleuses, ça,
ouais.
c'est énorme par rapport à une étoile.
C'est clair.
C'est indescriptible comment c'est plus grand.
C'est beaucoup plus grand et voilà,
donc
ils se rencontrent et puis ça peut, voilà, toutes ces interactions gravitationnelles vont créer des perturbations qui vont pousser des nuages de gaz à s'effondrer et donc on va avoir énormément d'évolution, enfin de naissance stellaire et donc d'évolution stellaire, de nouvelles générations, etc. Donc voilà un peu le lien qu'il peut y avoir entre tout ça. Donc en regardant tous ces objets, on a un peu, on a à la fois une liste du type d'objet qu'on observe, mais en fait on réalise que le lien entre tous ces objets, c'est le temps de l'évolution que ce soit des étoiles ou des galaxies, et justement l'astronomie, enfin l'astrophysique, c'est un cas assez particulier dans les sciences où on observe à la fois dans le présent et dans le passé. Mais on n'observe pas une trace du passé. Contrairement à l'archéologie ou des choses comme ça, on observe réellement le passé.
Ouais.
Et on n'a pas accès au présent, en fait. D'une façon. Pas réellement. Bon, alors dans le système solaire, ce n'est pas gênant qu'on a décalage de quelques minutes, mais dès qu'on commence à partir sur du milliard d'années-lumière, là, ça commence à être un peu plus conséquent en termes d'effets. Voilà, mais quand même, cette petite mention sur l'astrophysique qui réellement observe dans le passé. Voilà sur ce que je voulais vous dire aujourd'hui. On espère que vous avez pris plaisir à écouter cette émission. Nous, en tout cas, on a pris plaisir à la faire et on vous souhaite une bonne semaine et de bonnes observations.
Ouais, et un bon dimanche sur Radio Tiwa.
À bientôt.
Ciao.